bienvenue sur Fréquence Mistral. Bonjour à toutes et à tous dans l'émission 100% foot. Je suis toujours bien entouré, en l'occurrence, je suis avec Patrick. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous.
Un binôme fabuleux.
Oui, oui. Et nous, ancien, on se connaît,
oui.
Voilà, c'est un binôme ancien.
Et puis il y a de quoi dire, voilà, en l'occurrence.
Du virage ancien, du virage sud.
Absolument. Voilà. Donc évidemment, comme à l'accoutumée, nous allons parler de notre football, non pas régional, mais provençal. Oui. Et donc, commençons par la nationale, en l'occurrence au bagne, les filles après, et évidemment notre Ligue 1. Donc en nationale, bon, depuis hier... Nous allons parler d'Aubagne, oui. Dans le premier temps, pour bon, ben, l'actualité est de mise. Donc, nous allons parler de, voilà, du changement. Parce qu'Aubagne-Herbel a annoncé la fin de collaboration avec Gabriel Santos, arrivé il y a un an. Voilà. Il y a Kassim Abdallah qui assurera l'intérim.
Oui, voilà. Qui était entraîneur adjoint.
Absolument.
Qui est un ancien joueur.
Aussi,
qui est un ancien
latéral
de l'OM aussi, d'ailleurs. Un ancien arrière latéral de l'OM.
De l'OM également.
Voilà, et qui va assurer l'intérim, mais pas très longtemps, parce que j'ai cru comprendre hier soir l'interview du directeur sportif d'Aubagne sur nos confrères de BFM. Oui. Que comme il n'a pas les diplômes...
Ben, le club a moi justement pour trouver...
Voilà. Sinon, il y a une amende assez lourde à payer et que le club n'a pas trop les moyens de payer. Donc, voilà. Donc, oui, sur le match, il recevait à Aubagne, au Stade de l'Âtre, il recevait Sochaux.
Oui. Bon, pour finir avec, justement, ouais. Voilà, il n'est pas titulaire de, du brevet...
du BEPF,
d'entraîneur, pro. Il sera assisté de Thomas Lebeg, son adjoint, le premier adjoint, et lui, en qualité de second adjoint, il devient justement entraîneur pour l'instant, pour un mois apparemment.
Oui, voilà, pour un mois, qui est le délai de, pendant lequel tu as le droit de pas, tu ne payes pas d'amende.
Voilà. Absolument. Bon, maintenant, parlons football, Patrick.
Ouais.
Tu as commencé à en parler, évidemment, le dernier match d'Aubagne, donc à domicile, perdu 4-1 face à Sochaux.
Voilà. Et avec un petit truc, entre guillemets, amusant, mais qui n'est pas amusant, c'est qu'il aura arrivé la même mésaventure qu'il y a 8 jours
malheureusement,
à Dijon. C'est le gardien qui se blesse. Et on avait dit la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, que comme il n'y a que 16 noms sur les listes de joueurs en national et que tu as droit à 5 remplacements, la plupart des équipes n'ont pas de deuxième gardien. Conclusion.
On a trouvé un grand milieu de terrain pour suppléer le gardien de but blessé.
Alors, Dijon avait pris un défenseur central plutôt grand. Mm-hmm. Et là, ils ont pris Ousseini Ndiaye, qui a fait un match correct.
Ouais, correct, parce que j'ai vu quelques parades quand même assez étonnantes pour un joueur de cette taille.
Oui, ouais, quelques bonnes parades, quelques bons trucs. La défaite n'est pas pour lui.
Non.
Par contre, elle est pour la défense où tu as des trous, les mecs arrivent seuls.
Il y a des largesses énormes.
C'est énorme. Et c'est surprenant, et ça explique certainement le départ de Gabriel Santos.
Oui.
Parce que moi qui suis à 19h les vendredis, les matchs de, à 19h30, les matchs d'Aubagne-Herbel.
Effectivement,
depuis,
ouais.
Depuis cette année, là, depuis 2025. En début de saison, la défense était costaud, c'était même leur point fort. Il n'y avait pas des erreurs, il y avait des erreurs, comme toujours, comme tout le monde. Mais il n'y avait pas des fautes de marquage aussi nettes.
Justement, c'est depuis le début janvier de cette année,
voilà,
quoi,
le
tout
parabolo. Que tu ne comprends plus comment on ne sait plus marquer, les mecs se retrouvent seuls.
Le repli défensif est catastrophique.
Voilà, et tu perds. Parce que 4-1, honnêtement, c'est pas cher. Parce que Sochaux, là, après Sochaux, ils contrôlaient le match, ils n'ont pas appuyé sur l'accélérateur. Bon, c'est une grosse équipe.
Hein. Sans forcer, entre guillemets.
Voilà, ils sont troisième, ils jouent la montée, donc c'est quand même du solide. Il y a quand même quelques joueurs qui ont joué en Ligue 2, qui ont
essayé de faire la différence, en effet. Ouais.
Mais malgré tout, tu as été bouffé dans ce match et tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. Quoi. Tu ne sais plus défendre. Tu es mangé au milieu et tes attaquants, ils créent plus alors que tu avais une équipe qui se créait des occasions, qui marquait des buts.
J'ai ressenti quelques espoirs en première période.
Oui,
en tout cas,
première mi-temps. Tant que tu... Avant que ton gardien sorte, alors Malheureusement, le gardien, disons-le, Jordan Gil, là, il s'est fait les croisés.
Mais c'est une blessure, si on revoit l'action en elle-même, c'est assez troublant comme situation. Comment se blesser là-dessus
il sort pour dégager un ballon. Il est mal positionné, je pense peut-être faux rebond, je ne sais pas. Et il prend et il se reçoit mal et le genou qui tourne.
Très certainement, donc faute à la pelouse, très probablement.
C'est très possible. Et du coup, les ligaments croisés, c'est grave parce que c'est un bon gardien, c'est un élément important de l'équipe. Et dans une période où il va falloir quand même assurer les points pour le maintien.
Un élément majeur qui va faire défaut.
Tu perds ton gardien, le remplaçant est beaucoup plus jeune et beaucoup plus inexpérimenté. C'est un coup dur. Et là, je pense qu'avec le changement d'entraîneur, il cherche ce qu'on appelle un choc psychologique, un truc, une réaction. Et Kassim Abdallah, c'est un bon choix, à mon avis, parce que les joueurs le connaissent, il fait partie de l'équipe.
Très apprécié, justement, il a commencé la saison avec ses partenaires comme joueur.
Oui, il a rejoint le staff et tout. C'est un gars qui est apprécié, qui est expérimenté, parce qu'il va falloir se ressaisir, prendre les quelques points qui te manquent. Et là, ils ont un programme un peu compliqué, avec des matchs difficiles.
Bon, ben déjà, ça commence vendredi à Valenciennes, à 19h30, ce vendredi. Mais à la suite, évidemment, de 7 défaites et du nul à 9 matchs, et 5 défaites d'affilée, ça commençait à faire lourd. Compliqué, évidemment, pour la suite, en espérant, évidemment, que le choc psychologique
fonctionne et que l'équipe se ressaisisse, parce qu'il leur manque pas grand chose. Après, le problème, c'est que tu n'es jamais à l'abri qu'une équipe qui est derrière toi ait une bonne série et te revienne dessus.
En l'occurrence, notre position qui est 12e actuellement avec 28 points, nous avons quelques équipes derrière nous et devant nous qui sont,
à égalité. Ouais, je crois qu'il y a trois équipes à 28. Troisième des. En fait, il est dixième ex aequo, mais attention, parce que c'est toujours un peu dangereux, et donc il va falloir récupérer rapidement des points au courage, comme ils avaient su le faire en début de saison, aller chercher des résultats à l'extérieur. Tenir des matchs nuls, quand tu ne peux pas gagner, il faut savoir ne pas perdre.
Ça, c'est un terme employé par son homologue féminine, Corinne Diacre, qui a eu cette phrase justement après leur prestation. Dernière.
Voilà, bon. Et donc voilà, bonne chance et bon courage à Aubin Herbel.
Ils en auront besoin.
En espérant que le changement d'entraîneur porte ses fruits et que l'équipe arrache son maintien. Après, l'année prochaine, on verra.
Oui, déjà finir cette saison et ne pas, je dirais, il y a encore une marge laquelle il ne faut pas abuser et garder ce rythme, non pas de défaite, mais se reprendre en tous les cas.
Oui, parce qu'il y a des équipes qui sont derrière, qui ont fait quelques résultats récemment, y compris ce week-end. Et donc, il faut faire attention. Si les mecs se mettent à espérer, c'est ce qu'on appelle des dynamiques qui sont opposées et ça peut être dangereux.
Tout à fait d'accord avec toi.
Voilà.
Donc, on va enchaîner avec la Lyon Arkema féminine, et la 18e journée. Donc, Le Havre recevait l'OM au stade Océane et un score de parité de 2-2. Alors, on peut dire assez rapidement, le but pour l'OM par Blanchard, demoiselle, et Bourdieu, Mathilde, de son doux prénom. À la 57e, une égalisation, je dirais deux égalisations qui a permis aux Havraises d'arracher le nul au dernier moment, qui génère un peu de la frustration de la part de la capitaine, Tess Laplacette, Et Corinne Diarra, évidemment, qui préfère relativiser et considère que quand on ne sait pas, tu connais la phrase et nous la connaissons tous.
Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre.
Absolument.
Et il faut savoir que Le Havre est une équipe qui était classée devant nous.
Oui,
qui est
juste devant nous à un point. Voilà. C'est le cas toujours.
Donc tu as pris un point dans une équipe un peu mieux classée.
Statu quo.
Et tu as eu la chance, tu as déjà joué Lyon-Paris. Y a que Nantes qui est une grosse équipe, puisqu'elles sont secondes, les Nantaises.
Mmh. En effet, on les rencontrera le 22 avril, voilà. Après le fameux match de réception de Montpellier. Ouais.
Voilà. Et match où on espère, y a, d'après ce que j'ai vu dans les communiqués de l'OM, il y a plus de 40 000 places retenues, puisque l'entrée est gratuite, il fallait s'inscrire. Voilà.
Il y a un peu plus de 40 000 places qui sont déjà retenues,
Qui sont déjà retenues, ce qui est bien, ce qui devrait aider les filles. Mmh. Montpellier est une équipe qui est derrière nous. Si tu les bats à la maison, tu as de fortes chances qu'elles restent derrière jusqu'à la fin.
Ouais, ce qu'il y a de positif sur cette journée, justement, Lens, Saint-Etienne, Montpellier ont perdu ce week-end.
Voilà.
Et donc l'OM compte 7 points d'avance sur la zone relégable. Et évidemment, ce match prochain, Montpellier à la maison, une grande fête du football que nous attendons avec joie.
Oui, parce que c'est une bonne initiative.
Absolument.
Il semblerait que le club teste pour moi. Si en faisant, donc tu t'inscrivais sur le site du club, tu ne payes pas. Hein. Tu as des places qui ont été payantes en tribune, mais pas cher. Et la plupart des trucs, c'est ouvert. Donc tu t'inscris. Je me suis fait inscrire par les copains avec qui je vais en virage, avec qui je suis abonné. Et on va y aller, et si ça marche, et si tu arrives à faire vibrer le stand et que c'est bien, tu peux avoir espéré que des gens reviennent, et quand tu as des gros matchs, si tu reçois le PSG ou Lyon devant 40 000, c'est autre chose.
Oh oui.
Voilà,
oui.
Ça peut t'aider à être un peu plus performant, et ça peut être encourageant. Voilà.
Évidemment que c'est un petit peu le but de la manœuvre, par contre, malgré cela. Bon, évidemment, après ce match-là, on le disait, le 22 avril, on recevra Nantes, une équipe un peu plus huppée, bien entendu.
Ils sont beaucoup plus huppés.
Voilà, et ensuite, le 25 avril, nous irons à Lens, qui est derrière nous, creuser l'écart serait bienvenu. Ouais. Et le 6 mai, l'OM recevra Dijon qui est une équipe qui est au-dessus de nous, qui reste jouable.
Oui, qui est jouable.
Et qui, évidemment, ils ne sont pas meilleurs que nous.
Voilà. Et on voit quand même, pour avoir parlé avec des gens qui ont vu l'intégralité du match, moi, je n'ai pas pu voir tout, j'ai vu que des extraits, donc ce n'est jamais complet. Tu sens que Corinne Diacre, elle commence à placer ses billes, à avoir son équipe type, à faire retourner, que le jeu s'est stabilisé, qu'il y a une certaine confiance qui est rentrée.
Oui, j'ai lu pas mal de commentaires en ce sens.
Voilà, et tu es en train de bâtir, et si au Mercato, là, cet été, en juillet-août, tu arrives à recruter quelques éléments intéressants, tu peux t'installer tranquillement en Ligue 1 et faire en division Arkema, en Ligue Arkema, et t'installer. Après, pour arriver à titiller la tête, c'est des questions aussi de budget, il faudra voir. Voilà, ça dépendra, on va en parlant de l'OM.
Comme diraient certains, Rome ne s'est pas fait en un jour, pour l'OM, c'est la même chose.
Mais disons qu'il y a une petite équipe qui se monte, il y a des filles qui ont de l'expérience. Des fois, il suffit de 2-3 renforts bien placés pour avoir une équipe. Tu ne joues pas de Coupe d'Europe, donc tu n'as pas le problème d'avoir un effectif hyper riche et hyper important.
Effectivement.
Et donc, c'est bien d'installer l'équipe et c'est bien de faire 40 000 contre Montpellier. Montpellier, ils sont avant-derniers, je veux dire. C'est pas l'affiche qui... Mais ça veut dire que tu as un attrait. Et c'est bien, moi je parlais un peu ce week-end avec des collègues dans le virage. Les gens viennent voir si ça se passe bien et qu'ils prennent du plaisir et que l'équipe est sympa, tu peux te faire une clientèle intéressante. Voilà.
En espérant que le côté attrayant soit bienvenu.
voilà.
Et que cette équipe dégage cela en tout cas.
Voilà.
Bon, voilà pour les filles. On va revenir évidemment et attaquer cette Ligue 1. Faut bien commencer.
Oui.
Très très rapidement, Patrick, on va accompagner les différents résultats de cette journée, la 27e. Ça passe vite, on y est déjà et ça va très très vite.
Oui.
Donc, ça a commencé par Lens qui a gagné 5-1 face à Angers. Évidemment qu'ils ne s'en font pas plus que cela, et ils s'en sortent super bien, et en ayant fait un match excellent, malgré quelques déceptions de certains joueurs.
Oui.
Toulouse a battu Lorient 1-0, Auxerre a battu Brest 3-0, Nice a perdu 0-4 face au PSG à domicile, et c'est là qu'on pensait pouvoir à l'orée de ce match dimanche, Lyon qui a battu
Qui a été battu
à domicile par Monaco 1-2. Et c'est là qu'ensuite nous sommes entrés dans la danse. Voilà, l'OM a perdu également à la maison 1-2 face à Lille. Et on va pouvoir développer tout cela. Et ensuite, le Paris FC a battu le Havre 3-2. Là, il s'agit de match important pour le Havre. Évidemment que match nul, Rennes 0-0 face à Metz. Et Nantes qui a fait 2-3 contre Strasbourg qui débat 3-2. À domicile.
Ouais, à domicile.
Voilà, voilà. Ouais. Donc, pour revenir un petit peu sur certains matchs, si tu le souhaites, étayer un petit peu certaines de ces rencontres, ne serait-ce que peut-être ce qui était très attrayant, c'était l'entrée en matière de Lyon face à Monaco.
Oui, et Lyon c'est, on avait déjà dit ces dernières semaines que c'est une équipe qui commence à fatiguer parce qu'ils ont eu... entre la Coupe de France, ça me fait sortir un quart par Lens, mais au tir au but, mais
et
l'Europa League où ils se sont fait éliminer par le Celta Vigo, une bonne équipe espagnole, et donc ils commencent à payer l'addition. Ils ont eu pas mal de blessés, ils ont eu beaucoup d'absents, ils ont beaucoup tiré sur la corde, et tu le vois, les mecs sont bouillis, et tu as même certains. J'écoutais des trucs sur il y a eu une expulsion de Tagliafico qui et en fait Tagliafico c'est un très bon joueur, il est champion du monde,
hein.
Titulaire en Argentine,
ce n'est pas n'importe qui,
mais quand tu es crevé, que tu arques plus, ben surtout quand tu es argentin tu as tendance à faire des fautes et à mettre un peu. Et
là, j'ai senti une perche.
Il est en grosse difficulté, et donc il a disjoncté, il s'est fait expulser de manière tout à fait logique. Et il aurait même dû être expulsé quelques minutes avant.
Oui, en effet.
Parce qu'il a mis un coup de tronche à un mec, c'est quand même gênant. Quoi. Et c'est gênant qu'on ne l'ait pas expulsé d'ailleurs à ce moment-là.
C'est vrai.
Et disons que c'est une équipe que tu sens au bout du rouleau. Quoi. Même les joueurs, les bons, Niakate, Mata, qui ont porté l'équipe. Toute la saison, tu sens que les mecs sont bouillis. Tolisso, il est bouilli. Et ils récupèrent quelques joueurs qui reviennent de blessures, mais c'était insuffisant.
Ouais, cela suffira-t-il, justement, pour les accompagner dans ce...
Et ce qui est effectivement dramatique, Franck, comme tu le disais, c'est que, sachant que Lyon avait perdu chez lui contre Monaco, que Monaco revenait, puisqu'ils sont maintenant à 4 points de nous...
Oui.
Tu te dis, si tu bats Lille, tu mets Lille loin, tu prends 5 points sur Lyon. 5 points, c'est deux matchs.
Une anticipation légitime de notre part,
Tu maintiens ton écart avec Monaco. Mmh. Et ben donc, il fallait gagner contre Lille, et malheureusement...
Et patatras.
Disons-le franchement, un mauvais match.
Oui.
On a été mauvais, on s'est fait bouffer. On arrive à mener 1-0 à la mi-temps, tellement de commandes, parce que, en fait, tu as une occasion, tu la mets. Très belle action, d'ailleurs. Hein. C'est une des rares belles actions de la mi-temps.
Il faut le reconnaître, cette action-là, entre Paxao, etc.
Action, Timber qui lance, Paxao qui joue à 1-2 avec Timber qui le lance. Il déborde, il a bien la tête, il fait une passe en retrait à Noaneri qui frappe.
Ah voilà, fini par un joueur, justement conclu par un joueur qui devait pas être là au préalable, à ce moment-là du jeu.
Il avait remplacé Greenwood sur blessure.
Voilà.
On va en reparler
justement,
un peu tout à l'heure, de l'arbitrage. Et donc, on menait 1-0.
Ouais.
C'est assez miraculeux parce que, à part le premier quart d'heure, et comme par hasard, c'est quand Greenwood est sorti que l'équipe a plongé, parce que c'est quand même ton meilleur joueur de très loin.
Si tu me permets, on peut souligner le fait que quand nous avons marqué et conclu ce but, c'était quand justement on était dominé.
Oui, un contre, c'est un contre.
Justement qui nous a permis de concrétiser ce but.
Et voilà, les Lillois ont pas mal vendangé, mais ils avaient le contrôle, parce qu'au milieu, ils nous ont bouffés. Hormis le premier quart d'heure, ils nous ont mangé au milieu.
Deux joueurs fabuleux au milieu de terrain de Lille, qui sont nagés.
Bouadi et Ben Taleb, qui ont été...
Quel joueur.
Qui c'était la paire de récupérateurs. Ils cavalent, ils récupèrent, ils ratissent, ils pressent.
Aidés par des joueurs de couloir vraiment au taquet.
Oui, Haraldsson et tout, qui redescendent beaucoup et tout. Et donc, bref, ils nous ont largement dominés. Et en seconde demi-temps, tu es mené 1-0. Fallait les amener à s'exposer pour toi, espérer des comptes, parce que c'est vrai qu'Aubameyang... Alors Aubameyang, moi je voudrais en dire un mot.
Oui.
Il n'a pas été bon.
Oui, mais bon, après, on peut le souligner.
Pour être bon, il faut avoir des ballons. Voilà. Il a eu assez peu de ballons intéressants. Il a peut-être eu 3-4 ballons intéressants joués dans le match. Et bon, il a beaucoup couru dans le vide.
Il a senti un peu isolé.
Voilà, oui, il était isolé. Il a fait pourtant des appels.
Ouais.
Il n'a pas toujours été servi et pas servi dans de bonnes conditions.
C'était le souci majeur.
Voilà, et donc, première mi-temps, il a deux fois, il est correctement servi. Une fois, il a une occasion, il rate sa...
Il est bien dommage qu'il n'ait pas conclu cette
occasion. Voilà, il essaie de lober, je ne sais pas trop essaie de faire, mais il rate. Ouais. Mais enfin, il est vraiment excentré. Mmh. Et l'autre, c'est quand il percute le gardien de Lille. Qui d'ailleurs est sorti parce qu'il était un peu KO.
Alors justement, on va pouvoir parler peut-être de ces faits
de jeu.
Oui. Commençons par les faits de jeu où nous avons été victimes, entre guillemets, de fautes qui étaient...
Alors, mon
ça
avis...
Ça a commencé comme ça.
À la première minute, sur une action où il y a le défenseur central droit N'Goy qui met le pied dans la tête
de
Peck Shaw. Alors moi, j'ai revu les images à la télé, j'ai pas l'impression qu'il
fait exprès. C'est pas
volontaire. Non, c'est pas volontaire.
Mais le geste est dangereux en lui-même.
Le geste est vraiment dangereux, il prend un jaune, mais bon.
À minima.
Mais après, il aurait pu prendre un deuxième, parce qu'à 2-3 reprises, il a découpé Peck Shaw en particulier, qui, parce que l'équipe ne tournait pas, je disais qu'on s'est fait manger.
Mais ça, c'est fort regrettable,
voilà,
parce que...
Peck Shaw, il récupère, il essaie de partir en dribble, en crochet, pour essayer, et boum, 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 par terre.
Très personnellement, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu un deuxième avertissement dans la foulée.
Oui, parce qu'il a quand même fait 2-3 fois des fautes, dont une qui est assez très nette, il est passé et il le fauche par derrière, donc il aurait pu prendre une deuxième jaune.
On peut souligner celle-ci.
Voilà, et donc en fait, l'arbitre... fait un cadeau à l'équipe qui fait des fautes, et puis surtout la blessure de Greenwood.
Ça, c'est fort regrettable. Alors là, cette blessure-là, au-delà de la blessure qui est fort dommageable, bon, cette action de jeu qui est quand même une agression, on peut parler d'agression.
Oui, 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 c'est sur une contre.
Je pèse mes mots.
Greenwood récupère le ballon, il crochette, donc il évite le défenseur gauche de Lille, il s'appelle Verdonk, celui qui est international indonésien.
Je me rappellerai de lui.
Voilà. Et le mec, il envoie le pied, il envoie une tacle, il n'a aucune chance de toucher le ballon. Il touche Greenwood à la cuisse. C'est d'ailleurs ce qui le blesse et l'amène à sortir. Et alors Greenwood a un mauvais réflexe, il se relève et il va vers le mec, il insulte, il se chauffe.
Ça a été une réaction, je dirais.
Voilà, épidermale, parce qu'il a pris un méchant coup, d'ailleurs il est sorti.
Là,
il
c'est
a
vraiment
une,
la réaction épidermale.
Il a une béquille,
totale,
qu'on appelle. Voilà, et donc il est absent pour 3-4 semaines.
Donc pour synthétiser, il a dû sortir de quelques instants, quelques
minutes
après.
Oui, voilà. Il est sorti 3-4 minutes. Hein. Il est sorti se faire soigner, il est rentré, 3 minutes après, il est sorti.
Donc à ce moment-là, monsieur l'arbitre, peut-il intervenir pour revoir sa décision ?
Techniquement, non, puisque le jeu avait repris. Mais il y a un moyen très simple et qui est bien connu et qui a été fait des dizaines de fois. C'est que le mec qui a pris un jaune alors qu'il a blessé un joueur sur une action faute volontaire, il met un vilain coup et il coupe un contre qui pouvait être dangereux parce qu'ils étaient à l'attaque.
Effectivement.
Tu as une situation, il est passé donc. Greenwood, il est lancé, il y a Aubameyang et Peck Shaw qui arrivent en cavalant, donc tu peux penser qu'on est à 3 contre 3 ou 4 contre... Il n'est pas dernier défenseur, il y a des mecs derrière.
Il est vrai, mais en fait, cette situation-là...
Mais disons, c'est une situation de contre dangereuse, c'est la limite du rouge.
Oh que oui.
Parce que la faute, c'est pas, à la limite, un tirage de maillot. Tu fais pas mal, tu blesses pas le gars. Quoi.
Ce que je trouve regrettable sur cette action, c'est que la sanction a été équivalente pour
l'agresseur,
Greenwood,
et
l'agresseur et l'agressé.
Oui, parce que Greenwood,
avec une blessure en sus pour notre joueur.
Il était énervé, il s'est relevé, ils se sont branchés, ils se sont poussés, mais c'est rien.
Voilà.
Il y a un joueur de Lille, Haraldsson, l'ailier,
canard ajouté.
L'Islandais qui est venu par derrière et qui a percuté Greenwood par derrière. Greenwood ne l'a pas vu venir et qui est arrivé le genou en avant. Enfin, je veux dire, qui lui aussi a pris un jaune. Ça pouvait être un rouge parce que lui, il n'est pas dans la bagarre, il n'est pas dans l'incident.
Mais pas exemple de tout reproche
et
en l'occurrence.
Moi, je. Alors, évidemment, je suis supporter de l'OM. Donc,
oui,
mais
nous le
si
tous,
tu
mais...
es rationnel, tu as la victime qui s'énerve, il se frotte avec son agresseur. Tu as un mec qui vient mettre un coup par derrière. Et les mecs se retirent tous les trois avec un jaune.
Voilà.
Tirant que la victime, il a pris un jaune, alors qu'ils sont blessés. Et les deux qui ont mis les coups, qui ont sorti ton meilleur joueur, ils s'en sortent. Et l'arbitre, franchement, Verdonck, le défenseur, il a commis des fautes. Alors, rien de méchant.
Non, mais sur l'ensemble de
cette
rencontre...
Mais il aurait pu, voyant que le mec sort 5 minutes après, parce qu'il a pris un coup, il ne peut plus marcher, il est obligé de sortir, et qu'il est blessé, tu as des arbitres compétents.
Ouais, on aurait pu imaginer qu'il eût été dans le viseur de l'arbitre.
Voilà, première faute, premier tirage de maillot, première action un peu rude, tu lui mets une deuxième jaune et il dégage.
Ce qui me semblait légitime.
C'est un moyen de rattraper. Ouais. Et ce qui est choquant... C'est que sur l'action, le VAR n'intervient pas, alors qu'il y a quand même une échauffourée, tout le monde qui arrive au moulon et tout.
Il y avait de quoi justement sanctionner à ce moment-là.
Moi, j'ai revu les images après sur Ligue 1 Plus, parce que j'étais au stade, donc tu ne vois pas les ralentis.
Il y en a pris par la ferveur.
J'ai revu les images. L'arbitre, il dit vous calmez messieurs, il met 3 jaunes et puis allez-vous et on reprend le match.
Ouais, il a voulu.
Il fallait au moins qu'il appelle les capitaines, qu'il calme. Et là, tu vas lui dire oh le mec, il a mis un coup. Tu me mets une jaune, tu mets la même sanction à la victime et à l'agresseur et tout. Et l'arbitre l'a pas fait. Et je pense, alors il a pas été par le VAR parce que semble-t-il le VAR ne l'a pas appelé. Et on est dans une situation...
Je doute qu'ils ne les aient pas écoutés.
Je pense qu'ils ne sont pas intervenus. Ils ne sont pas intervenus. Et on est dans une situation où... on en parlait avec les copains. Mm-hmm. On parlait d'un truc qui avait fait polémique, le carton rouge de Hendrick, le Brésilien de Lyon.
Oui.
Alors, c'était un tacle d'attaquant.
Un tacle d'attaquant, en effet.
Où il met une belle semelle à un défenseur adverse. Mais où le mec, il prend un rouge parce qu'il a mis la semelle, c'est dangereux.
Ce qui était compréhensible,
l'autre,
mais...
L'autre, il te met un coup sur la cuisse, en pleine course. Ouais. Par derrière, le ballon, il est 5 mètres devant.
Et là, la sanction n'a pas été...
Il n'y a pas de rouge. Non, quoi. Donc, à un moment donné, il faudrait que les arbitres... Parce que le pied dans la tête, je le dis, à mon avis, il y a jaune. Hein, terminé. C'est bon.
Oui, bon, le match démarre.
Le match démarre ou pas démarre, on sait très bien
même
que...
Même si ce n'est pas volontaire, on a eu des rouges pour moins que cela.
Voilà. Tu as des défenseurs qui montrent qu'ils sont là et qu'ils filent pour te mettre d'entrée parce que, justement, ils savent que dans les 5 premières minutes, tu ne mets pas de rouge. Rabiot était un spécialiste de ce genre de coup de Satan où
justement.
Le mec il te dit « Mais non, vous arrêtez. » Voilà. Et donc, là, quand même, il y avait un pied dans la tête.
Ça nous dédouanait, je dirais, de cette défaite.
Parce qu'après, tu n'as pas été bon. Mais il y a quand même un élément qui est quand même lié. Mm-hmm. C'est que Greenwood, c'est ton meilleur joueur.
C'est notre meilleur joueur que nous perdons.
C'est
quoi.
Ton meilleur attaquant. Tu as eu plusieurs coups francs bien placés qui n'ont pas été bien tirés. Or, c'est ton tireur de coups francs.
On peut parler justement sur les coups de pied arrêtés. On a été, ne serait-ce qu'au corner.
On a été mauvais, on n'a pas été bon.
Ben ouais.
Et donc, tu as perdu ton meilleur frappeur, ton tireur de coups de pied arrêtés et ton meilleur joueur. Et qui est, c'est pas pour rien qu'il était meilleur buteur du championnat avant d'être dépassé par l'Argentin de Strasbourg, Panicelli.
Panicelli, je crois qu'il a dépassé.
Il a mis 2 buts, donc il le dépasse sur
cette dernière journée
où Greenwood n'a pas pu jouer.
Effectivement.
Mais c'est ton meilleur buteur. Il est quand même à 25 buts cette saison.
Si je puis me permettre, notre dernier meilleur joueur.
Ah oui, c'est ton meilleur joueur de très loin. Et tu l'as vu en seconde mi-temps où à la créativité, tu n'as rien. Mais
non.
T'as rien, t'as le pauvre Aubameyang qui attend les ballons qui n'arrive pas, t'as Pekchao qui fait de son mieux, mais les mecs, il faisait une prise à 2 ou à 3, il a été
coincé. Ils l'ont bien ciblé.
Ils l'ont bien ciblé.
Ça a bien travaillé, Pekchao.
Il a essayé, mais il avait son arrière latéral, le stopper, il avait un milieu qui venait couvrir, Et il en passait un, il n'en passait pas trois, parce qu'à un moment donné, ça devient dur.
Sans faire d'opposition de parallèle, cela, on n'a pas su faire la même chose dans nos défenses, notre défense.
Oui, oui, nous, par contre, on n'a pas su rentrer dedans et être éconné, on a commis des erreurs. Et ce qu'il ne fallait pas faire...
En l'occurrence, c'est sur deux situations de but qu'on a pris.
Oui, lamentable,
ah, oui.
Où il fallait surtout tenir le résultat pour qu'ils soient amenés à attaquer, à prendre des risques, à se découvrir, parce qu'ils attaquaient, ils avaient le ballon, parce qu'ils dominaient le milieu.
Il faut le reconnaître.
Et tu prends un but à la 49 ou 50e, sur une action où tu as un ballon, tu dégages mal, tu te fais reprendre le ballon.
Oui.
Le mec, Meunier, l'international belge, le latéral droit de Lille.
On se souvient de ce joueur, évidemment.
C'est un très bon joueur, ancien du PSG, c'est un international, je ne sais plus combien, 80 sélections.
D'ailleurs, sous les yeux de Rudy Garcia ce soir-là.
Voilà, parce qu'il était là. Ouais. Et donc, tu te retrouves dans cette situation. Le mec, il déborde, il centre. Le ballon, tu le cafouilles. Et le mec, lui, il suit. Et il vient contrer le dégagement de Balerdi, et comme il le contre à 8-10 mètres des buts, il dégage et l'autre il dégage dessus, le ballon il contre, et Rouli ne peut rien faire parce qu'il est battu à bout portant.
Effectivement,
quoi.
La défense là-dessus était en péril.
Tu as été en difficulté parce que tu perds le ballon. Moi, c'est un truc qui m'énerve.
Simple action de jeu. Ouais.
Tu mènes 1-0, tu dois tenir ce match essentiel pour la Ligue, pour la qualif en Ligue des Champions.
Essentiel, c'est le mot. Ouais.
Arrête le truc de je dis je sors en 1-2 en me faisant des passes et je repars de ma propre surface parce que le résultat, tu t'es fait contrer, ils ont récupéré. Ils ont eu le ballon à 30 mètres avec des mecs qui arrivaient lancés. Et toi, tu te fais contrer. En plus, le dégagement contré, ça fait but. Et à même pas la 50e, tu es revenu à un partout. Et là, toi, tu as manqué de créativité, absence de Greenwood, oui, mais il y a aussi que...
Oui. Voilà, la construction au milieu de terrain, on était complètement dépassés.
On était
dépassés,
en grosse difficulté. Ouais, ouais, ouais.
Malgré les efforts de Paxao, bon,
qui a fait un match.
Aussi,
et même, on parle du milieu, mais Højbjerg et Timber ont fait un match correct.
Oui, totalement.
Ils sont battus, ils ont couru, ils ont taclé.
Ils ont été supplantés justement par l'opposition.
Voilà, à la création les passes en profondeur, pour les actions décisives. C'est léger, quoi.
Les côtés, évidemment, comme tu le dis, Patrick, c'est vrai que...
Tu avais plus Greenwood, qui est... Puis en plus, Greenwood...
Défensivement, pareil, Medina a fait ce qu'il a pu. D'ailleurs, il aurait dû jouer peut-être plus côté gauche que dans l'axe, d'après moi. Et Weah également, c'est plus un contre-attaquant qu'un défenseur, même s'il y a eu quelques difficultés.
Ouais. Oui, parce que Weah, en plus, je crois que c'était sa 23e titularisation les 24 derniers matchs. Donc il vient un moment, c'est un latéral qui en plus est très offensif, donc qui attaque beaucoup, donc qui replie en courant. Il vient un moment où le mec commence à fatiguer.
Il y a de quoi.
Et donc, et le problème, c'est que comme tu as giclé Murillo juste à la fin du mercato, parce qu'il avait fait...
Très bien de le préciser, ça.
Voilà, c'est-à-dire, tu l'as pas remplacé. Ton remplaçant, c'est Pavard, mais l'apport offensif n'est pas le même. Donc, à un moment donné, tu ne le fais plus tourner. Donc, le mec, à un moment donné, il est comme les Lyonnais dont on parlait tout à l'heure. Il est bouilli, le mec.
Effectivement. Voilà, le terme est bien choisi.
Voilà. Et donc, tu as eu une grosse difficulté. Et le pauvre Weah s'est retrouvé sur le second but lillois, un duel aérien avec Giroud.
Ah ouais.
Quand on connaît la taille, 1m94, et le passé de Giroud en première ligue, Arsenal, à Chelsea... C'était un joueur de tête et tout. Et au duel aérien, il lui rend 15 cm. Il est battu.
Compliqué de rivaliser. Il est évident qu'un soutien, évidemment, autour de Balerdi et de Weah aurait peut-être permis...
Alors, Balerdi, là-dessus, je pense que les critiques sont un peu dures.
Oui.
Parce que quand tu regardes, on a revu... moi, j'ai revu le match et tout. Tu as donc, là encore, Meunier, il récupère le ballon, il contre... Il y a un joueur qui se fait contrer et Meunier, il arrive à lancer et il repique au centre. Il est à 2 mètres du bord de touche du corner. Et il repique au centre. Donc, Medina est sur un attaquant. Et donc, Balerdi, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vers le côté gauche pour fermer. Donc Giroud qui est pas le qui est pas le qui est pas l'agneau qui vient de naître.
Eh oui.
Qu'est-ce qu'il fait? Ben il voit que l'autre il y va, il est obligé d'y aller. Donc lui il se décale au second poteau.
Il a su se positionner. Et voilà, il a su de son
se positionner, il joue de son corps. Ouais, donc Weah ouais. Il perd le duel aérien. Mais c'était vu l'écart de taille et vu l'expérience de Giroud dans ce domaine, puis alors il met la tête croisée, petit filet, exactement ce qu'il faut. Roulis peut rien, il peut pas sortir, non. Il peut pas la sortir la balle. Et donc tu prends une seconde but à la 86.
Voilà, qui nous crucifie totalement cette action-là.
Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure en rigolant, c'est-à-dire quand tu peux pas gagner, il faut savoir pas perdre. Voilà.
C'est tellement criant de vérité.
Un point, tu mettais Lyon à 3 points. C'est une défaite. Hein. Et Monaco, tu les maintenais à 5 points au lieu de 4, hein, au lieu de 3. Oui, ouais. C'est 3. Et du coup, et Lille, ils prenaient qu'un point. Quoi. C'est-à-dire tu restais avec la même écart. Or là, Lille, ils te reprennent 3 points. Quoi.
Et là, ça commence justement, non pas à s'inquiéter outre mesure, mais à prendre conscience depuis un moment, mais les chiffres sont là. Ouais. Et les chiffres, bon, nous sommes en période, je dirais, de internationale, justement. Vont-ils le retrouver pour les joueurs qui restent chez nous et qui ne partent pas en sélection?
Ouais.
Bon, du coup, il n'y en a plus beaucoup.
Ouais, vont-ils donc retrouver le mental? Parce que
la question est là.
Il y a quand même un problème de mental, c'est-à-dire que plus le match passait, plus... Bon, moi, je parle de ce qu'on vit quand on est en tribune. Hein, on était là, avec les collègues. On se bouffait les ongles. Et on regardait en se disant, on va en prendre une. Parce que comme il revient à la 50e, tu as un partout. Tu te crées peu d'occasions. Tu n'arrives pas et tu prends les vagues et en contre. Et eux, ils jouent les contres. Hein, ils ont fait rentrer. Et alors, c'est vrai que à la décharge d'Abi Bey, quand tu regardes le banc,
oui,
ouais, il a fait rentrer Gouiri, qui est le seul mec. D'ailleurs, il a fait rentrer.
C'est lui qui a apporté un petit peu.
Oui, un petit peu, qui a fait une
période,
bonne rentrée.
Mais ça n'a pas suffi, justement.
Il a fait rentrer à la place de Kondogbia, donc en jouant en 10 derrière Aubameyang pour essayer, avec Nwaneri, l'anglais à droite, et Pekchao à gauche, pour essayer de jouer avec Aubameyang. Aubameyang, il est des ballons.
Qui était bien fatigué également, voilà, car il ne peut pas faire un match en entier.
Aubame, il a 38 ans, bientôt 39. Tu ne peux pas lui demander d'être titulaire à tous les matchs.
Et Kondogbia, évidemment, qui donne beaucoup.
Oui, qui a dû sortir. Donc c'est Gouiri qui l'a remplacé. Ouais. Tu as fait reculer Timber en milieu récupérateur. Et tu as fait sortir Kondogbia parce que tu ne veux pas qu'il se pète. Voilà. Mais quand tu regardes, à la fin, il a fait rentrer Bilal Nadir. Moi, je veux bien.
Oui,
parce à 2-1 pour essayer, parce que c'est plutôt un joueur offensif, créatif. Mais bon...
Non, mais là, c'était évidemment une pièce en l'air, un coup de génie de sa part.
Voilà, un coup d'éclat de Bilal, qui est un bon joueur,
mais
qui, pour l'OM et pour ce niveau-là, est peut-être un petit peu léger, y compris physiquement.
Plus.
Voilà, il s'est fait bouger 2-3 fois par les Bouadi, Bentaleb, par les défenseurs.
Qui a été dominateur sur l'ensemble
du
match.
Oui, les défenseurs lillois, boum boum, les coups d'épaule. C'est un garçon qui manque un peu de physique. Et tu regardes sur le banc, tu avais Abdelli, tu avais pas grand-chose.
Il n'a toujours pas tiré son épingle du jeu. Championnat arrive bientôt à terme dans cette match.
Oui, c'est... Bon, c'est un bon gars, mais le problème, c'est...
Je n'en doute pas.
Et tu n'avais pas, alors que Genesio, il a fait rentrer Mbemba, il a fait rentrer Giroud, il a fait rentrer, il a fait rentrer Perrault, l'arrière-gauche, qui était frais et qui n'a pas arrêté de monter sur son côté.
Justement, parlons de fraîcheur. Pouvait-on penser, avant ce match-là, qu'ils auraient pu être impactés par le match de Coupe d'Europe précédent, on parle de Lille, pas de nous, parce qu'on n'y joue plus, mais ça n'a pas été le cas.
Et oui, et ça c'est un problème, parce que si une équipe devait fatiguer en fin de match, et c'est vrai que Genesio a bien géré ses remplacements.
Absolument.
Giroud, qui avait fait 98 minutes à Aston Villa, il était sur le banc, il est rentré les 20 dernières minutes.
J'avais ce fort espoir en moi, justement, que ce dernier quart d'heure, nous aurions pu reprendre le dessus.
Et quand je parle de Romain Perrault, arrière-gauche, qui a remplacé donc Verdonk, là, celui qui a blessé et qui aurait dû normalement sortir avant.
Qui n'aurait pas dû poursuivre ce match.
Romain Perrault, il est rentré, il était frais, Parce que lui, il avait joué à Aston Villa, mais enfin, il avait eu trois jours de repos. Et il n'a pas arrêté, c'était un ailier, il n'a pas arrêté de monter, d'attaquer.
Très offensif, ouais.
Et tu te retrouvais avec l'ailier gauche et lui, les deux, ils te mettaient le feu. Parce que c'était, je crois que c'était Fernandez Pardo qui était sur l'aile gauche. Parce que tu avais les deux mecs et le pauvre Oya et le pauvre Balerdi se retrouvaient avec deux mecs. Et tu étais en grosse difficulté.
C'est vrai qu'il faisait pas mal d'aller-retour pour parler de Oya en l'occurrence.
Et tu le voyais venir. Mmh. Tu te dis, tu vas me prendre une... Parce que toi, tu n'arrivais plus à garder le ballon. Et c'est là que tu vois qu'il y a eu des problèmes dans le recrutement. C'est que tu n'as pas un joueur qui sait mettre le pied sur le ballon, calmer, comme le... Alors, on ne va pas parler de Modric ou de, Toni Kroos ou des gens comme ça. C'est des monstres. Ça, c'est des monstres. Mais enfin, des joueurs qui savent mettre le pied sur le ballon,
calmer, casser
le rythme et tout. Et toi, tu ne sais pas faire. Voilà. Toi, tu ne sais pas, tu n'as pas de joueur qui
fait
ça.
Tu as dit de mettre le pied sur le ballon et savoir gérer justement ces situations de jeu.
Parce qu'en fin de match, les mecs, ils revenaient par vagues. Ouais. Et tu te disais... alors, il y a quand même eu une occasion d'Haraldsson, d'ailleurs. Ouais. Le monsieur qui est venu percuter dans le dos Greenwood.
Effectivement.
Voilà.
Le même homme.
Qui a eu une occasion, il est parti de derrière, il a croisé, il a fait un très bel appel, il a été servi. Et c'est Rouli qui sort et qui ferme l'angle et qui fait un bel arrêt.
Il est vrai.
Il en met un autre, mais il est hors jeu. Là. Donc voilà, ça a été refusé, il est hors jeu. Mais je veux dire...
De peu.
Oui, mais de peu, mais il est hors jeu.
Mais voilà.
Donc ils ont commencé à avoir des occasions. Tu te dis, on va le prendre. Et malheureusement, tu le prends. Parce que, voilà. Alors après, moi, ce que je dois dire, c'est que Lille n'a rien volé, hein.
Oui.
Bon, si ce n'est l'histoire des brutalités et des incidents qu'il y a eu en première mi-temps où ils auraient pu être sanctionnés plus durement, parce que quand un joueur sort blessé parce qu'il a pris un coup volontaire en dehors du ballon, le ballon il est 5 mètres devant, donc le mec il n'a aucune chance, il ne joue pas le ballon, bon. Il joue l'homme.
Du coup concrètement là en l'occurrence Greenwood est blessé,
oui.
Donc malgré la trêve internationale que nous vivons, il ne sera pas de retour face à Monaco parce qu'en même temps
il a pris un carton jaune,
c'est son cinquième, donc il sera suspendu face à Monaco,
ouais.
Et ça risque d'être problématique également.
Ça c'est problématique parce que Monaco c'est de loin la meilleure équipe,
oui.
En ce moment ils sont en pleine bourre. Ils ont même failli mettre dehors Paris en Ligue des Champions. Hein. S'ils n'ont pas à chaque match un expulsé, je ne sais pas comment ça tourne.
Ouais.
Et donc, tu es en difficulté avec eux. Et tu vas aller jouer chez eux après la trêve.
Et j'ai très peur.
Je ne suis pas le seul, mais
cette appréhension légitime qui nous passe la carotte, qui nous passe devant.
Hein. Voilà, qui nous rattrape. Quoi.
Ben ouais.
Parce que le problème, c'est...
Voir nous dépasser.
Ta défense n'est pas assez solide. Tu fais trop d'erreurs de marquage. Mm-hmm. Tu es en difficulté. Parce qu'en première mi-temps, les Lillois ont eu quelques occasions. Ils n'ont pas marqué. Hein. Mais enfin, ils ont eu 2-3 situations où ils tirent des 20-25 mètres. Où les mecs sont seuls. Et après, les mecs ne cadrent pas. Hein. Tant mieux pour nous. Ou une fois, c'est détourné, une frappe qui aurait pu être dangereuse, c'est détourné un corner.
C'est vrai.
Mais tu as des situations compliquées, et on sait que frapper de 25 mètres, c'est dangereux, parce que si des fois, là, sur la première mi-temps, le ballon est contré, je ne sais plus par qui, donc il y a corner. Mais tu peux contrer, la balle va dans ton camp, comme le dégagement de Balerdi contré par Meunier, ça fait but. Quoi. Voilà. Et donc, c'est dangereux. Et tu ne montes pas, tu n'as personne qui vient se jeter, empêcher les mecs de tirer.
Alors, un soutien défensif pour aider Balerdi sur le coup. En même temps, ça manquait de conviction, dégagement.
Oui, le dégagement, il n'a pas été... Mais Balerdi, moi...
Ça lui jetait la pierre. Hein.
Oui, l'impression que j'ai, c'est un bon gars, il est volontaire et tout. Et ce n'est pas un mauvais joueur. Mais tu as l'impression qu'il joue la peur au ventre.
Oui.
Moi, je l'ai constaté.
C'est palpable, totalement.
Sur les relances, où d'habitude, il y a 6 mois, avec deux herbies, ils montaient...
Ah, pour faire ressortir ses voilà, adversaires, faire, nos adversaires.
Faire monter l'attaquant adverse, ouais, ouais, bien ouais, me chercher, ouais. Il décalait, il passait et tout.
Se créer des espaces. Voilà.
Et il tentait des ouvertures de 40 mètres, des changements d'aile et tout.
Là, il jouait beaucoup plus avec notre gardien de but.
Voilà,
gardien.
Là, il jouait sobre, ouais. Il passait à Medina sur le côté
par exemple,
gauche.
Ouais, ouais.
Il passait à Oué à droite, le ballon revenait. Mm-hmm. Mais je ne l'ai pas vu prendre beaucoup de risque, qui est le signe d'un mec qui n'est pas en confiance. Et il y a des moments sur des actions défensives où tu as l'impression qu'il a les genoux qui tremblent. Oui. Tu sens que le gars n'est pas en confiance. Et là, on peut poser la question qui était posée par certains collègues en virage, qui est Pavard avait fait bon retour. Ouais, ouais. Pourquoi tu sors Pavard? Alors, pour ne pas décaler Balerdi à gauche... Et mettre Emerson, qui apporte plus en contre, comme arrière-gauche, qui est meilleur contre-attaquant que Medina.
Mais pour couvrir, plus compliqué, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, peut-être parce qu'il était menacé d'un carton jaune probable, peut-être oui, Pavard, mais enfin, bon, bref.
Oui, mais enfin, Medina aussi.
Aussi
hein, donc, façon, n'importe lequel des deux que tu mettais, il prenait un carton, il était suspendu à Monaco. Donc, c'est quand même un choix qui a été fait.
Il fallait en faire un, ouais.
Forcément, il fallait qu'il choisisse. Il a fait un choix. Il ne s'est pas avéré bon, mais après le match, c'est facile de critiquer.
On ne va pas refaire le match, voilà. Bien entendu. Ouais.
C'est facile de critiquer. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé Balerdi tremblotant.
Oui.
Wea fatigué.
Très fatigué.
Medina s'est battu, mais...
Ouais, il a fait un match correct.
Oui, il a fait un match correct. Après, bon, quand il avait Giroud en face, il a essayé une ou deux fois de passer devant, de le prendre. Et Giroud, tu le contournes pas.
Compliqué de faire le tour de ce monsieur.
Giroud, il est arrivé, il a contrôlé, il a remis le ballon en retrait.
Évidemment.
C'est pas le petit jeune qu'il y avait avant que tu lui as marché dessus.
Ouais.
Voilà. Et
tu vas pas l'intimider voilà, comme cela.
Et devant, et... Quand toi, tu as fait des remplacements, donc Moineri, il met le but, mais à part ça, oui, il est très moyen.
Ben oui, parce qu'il avait une demi-heure dans les jambes à peu près, voilà, c'est ce qu'il a donné. Voilà. Après, il était inexistant pour
voilà,
la suite,
après,
il a été
tu
sorti.
L'as plus vu.
Ouais, ouais.
C'est Ahmed Traoré Junior qui est rentré,
oui,
qui lui, il est rentré, mais...
Ben, qui a fait le remplacement, tout simplement.
Voilà, mais il restait 20 minutes.
Qui a fait le 11e homme,
Tu m'aurais pas dit qu'il avait remplacé, j'aurais pas vu sur la Provence qu'il était rentré, j'aurais pas su qu'il était rentré. Voilà.
Ça n'est pas vraiment aperçu. Ouais.
Bilal, bon, il a pas joué, il a joué 5 minutes,
ben
tu
ouais,
peux rien dire. Hein. Mais enfin, je veux dire,
on
il a pas apporté.
Non.
Et en fait, voilà, tu te retrouves, le seul qui a un peu amené, c'est Gouiri.
Oui.
Qui a fait une rentrée intéressante,
oui,
qui a tenté.
Évidemment.
Mais...
À l'instar de Paxão, qui était
présent
tout au long de ce match. Ouais.
Et qui, en plus, Paxão, moi, ce que j'aime bien, alors autant des fois, je trouve que ce n'est pas une très bonne dribbleur pour un Brésilien.
C'est vrai.
Il est rapide, en 1-2, il passe, mais en vitesse, il passe, mais en dribble, il est souvent contré.
Oh, c'est le moins que l'on puisse dire.
Mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il travaille.
Oui.
Tiens, ils viennent défendre.
Ça, alors, on ne pourra pas lui reprocher.
Voilà, après, 1m68, quand tu défends sur des corners que tu as Giroud, et voilà, c'est sympathique, tu le gênes.
Même au niveau offensif, revenons justement au coup de pied arrêté que nous ne maîtrisons guère, que ce soit corner ou autre coup franc.
Oui.
On n'a pas vraiment de mesure à mettre en danger nos adversaires.
C'est pas la première fois, on en avait parlé dans le match de coupe contre Toulouse.
Également.
Toulouse, c'est une équipe, il y a beaucoup de grands baraqués. Où on a été mangé dans le jeu aérien, on n'a pas de très bons joueurs de tête, parce que même Medina, il n'est pas très grand, il fait 1m80, c'est pas des grands joueurs.
Oui, Patrick, mais au-delà de la taille, on peut tirer son épingle de
oui,
jeu sur un coup de pied arrêté, un corner,
voilà,
par exemple.
Un corner défensif, tu peux au moins gêner
ben
le
ouais,
mec, l'empêcher de sauter, le gêner, le bousculer un peu, juste assez pour que ça passe dans la mêlée, et l'empêcher de placer, parce que quand tu regardes le but de Giroud, bon d'accord, il saute bien, il a le métier, puis
oui,
il est fort. Et Giroud,
il sait finir en action.
Voilà, voilà. Mais le mec, il est tranquille, il place la tête, petit filet.
Ça, on n'a
est...
pas senti de gêne, justement.
Voilà,
ouais,
il est à l'entraînement, quoi. Il n'y a personne
ça,
qui le
ça,
gêne.
Ouais.
Même s'il te domine dans le jeu aérien, tu peux le gêner, l'empêcher de placer sa tête. Et tu ne le fais pas. Et là-dessus, il y a un problème, comme je parlais tout à l'heure des tirs lillois, où il n'y a pas grand monde qui monte au contre, qui vient
qui
gêner.
Qui va porter du ballon, voilà, pour le gêner. Voilà. On ne l'a pas
tu,
vu.
Tu l'empêches de prendre son temps pour cadrer sa frappe, pour tirer, c'est un danger.
On ne parle pas de voltigeur, mais quelqu'un qui jaillit justement pour gêner son opposition.
Et donc, Lille n'a pas volé la victoire.
Oh non.
Non. Le seul truc, c'est cette histoire de carton rouge
on
potentiel
en
première mi-temps. Mais si tu râles, on va te dire que... D'ailleurs, ce qu'a dit Bey et ce qu'a dit Timber, il a dit, c'est pas l'arbitre, c'est nous. Voilà, qu'on n'a pas été bons.
Ce qui est fort juste.
Ce qui est juste, voilà. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois ça et que tu vois le programme à venir, parce que tu vas à Monaco...
Voilà, on va très rapidement, c'est ça.
Bon,
donc,
après, tu reçois Metz, bon, ça va, mais ça. Tu vas à Lorient,
c'est ça.
Qui est une équipe qui est invaincue depuis septembre sur son terrain. Et qui est 9e, hein, qui est bien placé. Ils sont 10e, oui. Ils sont bien.
Et évidemment, c'est une équipe qui joue au football. Là.
Oui, qui joue.
Il ne faut pas se fier à leur classement.
Voilà, c'est une équipe costaude, hein, difficile chez eux. Et après, tu joues les équipes de bas de tableau.
Ouais.
Sauf Rennes, la dernière journée au Vélodrome, qui jouera peut-être une qualif européenne chez toi.
Et oui.
Puisque tu reçois Nice et tu vas... dans les deux avant-dernières journées, l'antépénultième et l'avant-dernière, tu vas à Nantes et tu vas au Havre.
Alors, est-ce que tout se jouera à ce moment-là, ou est-ce que l'orage passait ou pas, ou est-ce que c'est avant que... Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres concernant notre position actuelle et la position suivante, celle qui sera définitive. Est-ce que la position de quatrième qui pourrait être la nôtre, qui ne l'est pas en l'occurrence, est-elle, je préférerais très probablement, nonobstant la place de troisième que nous voudrions, mais je ne l'espère plus. Cinquième ne serait pas meilleur que d'être quatrième. Quel est ton avis là-dessus?
Bon, déjà, en Coupe d'Europe, tu seras moins en difficulté en Europa League.
Voilà.
On l'a vu avec Lyon cette année, Lyon et Lille qui ont fait des bons parcours.
Pour étayer, c'est justement...
Le niveau est plus faible, tu arrives à te qualifier, les deux sont qualifiés sans problème, enfin voilà. À part Nice, mais qui était à la rue, donc voilà. Ouais. Mais voilà. Et la Ligue des Champions... c'est ce que je disais après le match, on a bu un coup pour en parler avec les copains, avec l'équipe, le match que tu as fait contre Lille, tu vas en Ligue des Champions, tu fais 36e sur 36, quoi. Parce que vraiment tu te fais manger
déjà,
par Lille chez toi.
Voilà, ma question était justement d'arriver dans cette position de quatrième où on serait confronté à deux matchs avant d'intégrer
quatre matchs
c'est ça, donc préparer transférer des joueurs, préparer une équipe, autant physique que sur l'ensemble de préparation, c'est compliqué.
On rappelle à nos auditeurs que le quatrième, il est qualifié pour la Ligue des Champions pour les barrages.
C'est ça.
Mais il y a le match de qualif, il y a les barrages, il y a deux matchs à jouer contre deux équipes.
Comment préparer une saison comme cela? Est-ce qu'on ne remet pas tout en cause à ce moment-là?
Sur ces cinq dernières années, quatre fois. Donc une fois l'OM, d'ailleurs, contre le Panathinaikos, Athènes, on s'en rappelle, il y a 3 ans.
Effectivement.
Qui n'était pas une flamme internationale, c'était pas Liverpool, c'était le Panathinaikos Athènes. T'es fait sortir.
Ça n'est mordu
et
les doigts.
Et Nice, Monaco, l'OM, Monaco contre Benfica.
Et derrière la saison, on a été impacté toute la saison à ce moment-là.
Oui. Et donc, le problème que tu as, c'est que si tu recrutes Ligue des Champions, les matchs sont 5 août et 15 août ou un truc comme ça. C'est juste avant le début du championnat.
La préparation est différente à ce moment-là.
La préparation est différente, tu es obligé de reprendre avant. Ton recrutement, si tu recrutes Ligue des Champions, y compris en nombre, parce que tu as besoin d'un effectif, on parlait de Lyon.
Il est vrai.
Tu as besoin d'un effectif nombreux pour tourner.
Mon interrogation pour cette place de quatrième qui est pseudo intéressante.
Oui, la place de quatrième est intéressante. Le problème qu'on va avoir, c'est que tu n'as plus, parce que Longoria donc est parti, n'as plus de président.
C'est d'actualité, justement, officiellement aujourd'hui qu'il est...
Voilà, on sait qu'officiellement il est parti hier, lundi. Donc tu n'as plus ton président qui était quand même important dans le recrutement parce qu'un très gros réseau, même si on peut lui reprocher d'avoir fait trop de transferts. Tu as des joueurs prêtés que tu es obligé d'acheter. Ahmed Traoré, pourtant, il n'est pas bon. Medina et Wea. Alors Wea, c'est une bonne chose.
Oui, là, ça Medina, a été la bonne pioche.
Medina, c'est un peu plus moyen. Mais bon, mais Ahmed Traoré, alors c'est que 8 millions d'euros, on va te dire. Mais enfin, c'est pas.
Oui, il faut relativiser. Donc, ce n'est que du show business, mais voilà, tu malheureusement.
Tu as 40 millions à sortir sur les 3. C'est des options d'achat obligatoires. Tu ne vas pas garder Pavard. Tu ne vas pas garder Vermeeren, tu ne garderas pas Nwaneri, ça il sent bon. Et par contre, tu as donc des joueurs qui sentent bon. Tu vas essayer de te débarrasser, parce qu'à mon avis, ce que je crains, ce que craignent beaucoup les supporters, c'est que Greenwood te dise « je m'en vais ». Merci, au revoir.
C'est ce qui risque de nous arriver très certainement.
Alors, je lis des conneries, entre guillemets, dans la presse.
On lit les mêmes.
Voilà, c'est en oubliant de dire que quand tu l'as acheté à Manchester pour 30 millions, la plus-value sur la vente, aujourd'hui, Greenwood, tu le vends à 60 sans problème. La plus-value, il y en a la moitié qui va à Manchester United.
Il
ne
fera pas grand-chose là-dessus.
Donc, si tu vends Greenwood pour récupérer 15 millions d'euros, ou un truc comme ça, ou 20 millions, tu ne trouveras pas un mec à ce prix-là pour le remplacer, parce que c'est quand même un joueur.
Déjà, l'envie, je pense qu'il n'a pas envie de rester. Oui, c'est palpable, nous le ressentons ainsi.
Il s'entendait très bien avec De Zerbi.
J'espère me tromper. Mais...
Il s'entendait bien avec Longoria, qui est l'homme qui avait négocié sa venue, qui négociait avec son
qui
père.
Qui est à l'origine, justement, de cela.
Et on sait qu'il ne s'entend pas bien avec Benatia. De toute façon, on n'est pas sûr que Benatia reste.
Effectivement.
Donc, qui va se charger du recrutement? Si tu n'es pas dans les trois, c'est pour ça que la troisième place est essentielle, tu n'es pas sûr de jouer la Ligue des Champions.
Oui, à ce moment-là, donc, déjà, on n'a pas de président.
Oui.
Pas enfin, sûr.
On va en avoir un.
Oui, on va en avoir un. Par intérim, on fait beaucoup d'intérim à tous les niveaux que ce soit.
Voilà.
Pour Bay, sa situation, ben, évidemment qu'elle n'est pas bien définie ici. Il est entraîneur pour l'instant, mais il n'est pas ancré dans cette position-là.
Si tu n'es pas troisième, à mon avis,
tout
reste
dépend
pas.
De cela. Voilà. Et en concernant Benatia également, sa situation professionnelle est évidemment aussi en suspens.
Théoriquement, il s'en va le 1er juin.
Ben ouais.
Voilà.
C'était annoncé,
sauf que ton recrutement, il commence maintenant. Sur les joueurs libres, sur les joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat, ou que tu vas pouvoir
là-dessus,
négocier la baisse parce qu'ils n'ont plus qu'un an, ils ne prolongent pas. Et donc, tu as un problème de visibilité. Qui va te construire ton équipe? Parce qu'en plus, tu as vu que cette équipe, elle avait des failles mentales et des failles dans le jeu. On disait tout à l'heure, personne ne met le pied sur le ballon, personne ne construit, tu n'as pas de numéro 10. Voilà, tu as une grosse lacune et donc tu es en galère. Je peux comprendre qu'on a perdu Rabiot au dernier moment.
Oui.
On a été obligé de faire ce qu'on pouvait, mais à un moment donné, une équipe, ça se construit avec des complémentarités. Tu n'es pas sûr d'avoir un directeur sportif. Ouais. Tu ne sais pas si ton entraîneur sera entraîneur. Tu n'as pas de président et tu n'as pas de recruteur. Parce que si ton directeur sportif, il s'en va, ce qui normalement est le cas.
Alors, comment apaiser les esprits concernant les joueurs, en l'occurrence,
et les
remobiliser, justement, solidaires pour cette fin de saison
C'est le travail très compliqué
ligne droite,
que doit faire Habib Bey.
Ouais.
C'est-à-dire sortir du côté, l'avenir, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Parce que les joueurs, ils appellent leurs agents, je veux partir, trouve-moi... Voilà, c'est le risque que tout le monde voit avec Greenwood. Hein. Trouve-moi une porte de sortie, je m'en vais.
On sent déjà dans notre dos les négociations.
Tu le sens arriver.
Ah, ouais.
C'est quand même ton joueur de classe internationale, ton meilleur joueur.
C'est le joueur majeur, on peut le dire. Voilà.
Et donc, tu te retrouves... comment tu construis ton effectif? Si tu joues les tours préliminaires de la Ligue des Champions, il faut reprendre vers le 25 juin.
Effectivement.
Parce que c'est début août, donc il te faut reprendre le 24-25 juin. Si tu veux que ton entraîneur il travaille dans de bonnes conditions, ce que reprochait à juste titre Roberto De Zerbi, il faut qu'il ait l'équipe au début du stage pour créer les automatismes, connaître les joueurs, se parler.
Ça semble tellement évident.
Voilà, c'est là que le groupe se construit. Oui. C'est le grand reproche qui a été fait à le Pablo Longoria.
Ça évite les réunions en cours de saison, voilà. Les retirer tout. Voilà.
Sauf que quand tu as des problèmes financiers, comme c'est le cas du club,
et c'est le cas,
et tu achètes au dernier moment parce que c'est moins cher. Tu prends les, ou tu te fais faire des prêts les 2-3 derniers jours, donc c'est-à-dire fin août que le championnat a déjà commencé. Et donc les mecs, ils arrivent, ils ne sont pas préparés avec toi, ils ne connaissent pas les gars, c'est une situation compliquée. Et donc à ce moment-là, c'est, ça craint. Et c'est vrai qu'une qualif en Ligue des Champions te permet d'attirer des mecs.
Donc il est évident, alors sans faire de prolétisme ou de religion, j'allais dire Patrick, prions pour cette troisième place.
Oui, parce que je reconnais, pour parler dimanche, alors après une défaite, tu as tellement les boules que tout le monde est négatif. Mais c'est vrai que mobiliser... Alors les supporters ont joué le jeu, ils ont applaudi, ils ont encouragé l'équipe, ils ont poussé jusqu'à la fin. Tu as une bronca à la fin, mais ça c'est normal.
Ouais, un peu légitime.
Mais les supporters ont joué le jeu, tu as du mal à motiver les gens sur « on joue la troisième place ».
Bon, Patrick, croyons-y jusqu'au bout.
Oui,
et on lâche rien.
Et on vous tiendra au courant dès la semaine prochaine. Voilà, parce que là, il y a la trêve internationale.
De tout cœur, Marseillaise, Marseillais et tous nos amis autour de cela.
Voilà.
Accompagnons l'OM jusqu'au bout.
Voilà.
Au revoir Patrick, au revoir à toutes.
Au revoir à toutes et à tous.